Vous êtes sur la première, vous écoutez mes dialogues. Le développement vertigineux du monde numérique donne bien sûr des ailes à nos curiosités. Mes dialogues s'en fait du reste régulièrement l'écho. Mais ce développement numérique inquiète aussi un certain nombre d'intellectuels ou de philosophes. Et oui, aujourd'hui, les compétences du numérique sont telles que des robots numériques décident de plus en plus souvent à la place des hommes. Eh bien, c'est en substance cette étape technologique majeure que souligne le philosophe Éric Sadin dans son ouvrage intitulé « L'humanité augmentée » publié l'année dernière aux éditions L'Échappée. Alors au moment où de nombreux éditeurs manifestent leur lassitude de voir Google piller leur contenu, au moment où le gouvernement français s'interroge sur l'hypothèse de faire pression sur le géant américain pour qu'il redistribue une partie de ses revenus à la presse française, et au moment où la Commission fédérale des médias souligne l'obstacle que représente la révolution numérique pour la diffusion de la pluralité des opinions en Suisse, eh bien, Quentin Bollone a interpellé l'auteur de « L'humanité augmentée », Éric Sadin parle pour commencer de la prédominance du célèbre moteur de recherche.
Google est le levier principal de cette numérisation qui ne cesse de vouloir l'étendre. Récemment, il y a eu Google Indoor, hein, à l'intérieur même des lieux, de vouloir mapper les lieux internes. Google Street, Google Maps, Google Earth, même si eux n'étaient pas à l'origine, ils ont racheté la compagnie qui l'avait créée. Oui, ils sont le levier principal, ils ne sont pas les seuls, ambitionnant une sorte de numérisation intégrale du monde et qu'ils souhaitent évidemment capitaliser au titre de leur capacité extrêmement élaborée dans l'indexation des données, c'est-à-dire la gestion des données, l'élaboration des systèmes qui sont capables, une fois de plus, de traiter ces données, d'interpréter les situations via les données. Google est la première compagnie au monde en intelligence artificielle et en indexation de données. Un des enjeux dont on s'aperçoit actuellement, c'est la place quasi monopolistique que l'entreprise californienne occupe aujourd'hui et avec les questions que ça suppose d'un point de vue politique, juridique, commercial, social, le fait qu'il y ait une grande entreprise qui à la fois ne cesse de s'étendre et qui à la fois occupe une position monopolistique. Et on sait très bien que le monopole dans les démocraties, ce sont des situations qui sont généralement auxquelles on oppose la libre concurrence et l'opposition. Or, actuellement, Google est voilà le maître dans ce champ complexe et avec lequel nous cessons de voilà d'adosser nos comportements quotidiens, qui est celui de la maîtrise de la gestion des données et leur indexation. Et on voit jusqu'à quel point à la fois nos comportements aujourd'hui se constitue au filtre de la consultation, au filtre des données. Et quand on constate que cela s'opère principalement par le biais d'une seule entreprise, il est temps que nos démocraties, que le législateur, mais aussi que les individus prennent conscience que là, il y a une situation extrêmement déséquilibrée et tendanciellement dangereuse à terme, inquiétante en tous les cas à terme.
Dans quel sens inquiétante ?
Ben, voyez les Google Glass. Hein, les Google Glass, par exemple, ce n'est pas seulement de la réalité augmentée, c'est-à-dire des informations qui se superposent à notre perception naturelle des choses. Par exemple, je marche dans la rue, je vois tel bâtiment historique, et puis on pourra me conseiller tel restaurant. Hein. Mais c'est Google Glass. Et Google qui maîtrise la collecte des données, leur traitement et leur distribution à l'attention de chaque profil individualisé, ça suppose que ma vie, nos vies individuelles, avec cet étrange et ce très très troublant et très problématique dispositif que sont les Google Glass, avec lequel j'éprouve beaucoup d'inquiétude, eh bien la perception va être pour large partie à terme, en tous les cas si le dispositif se maintient tel qu'il est, si nous l'adoptons dans nos usages, notre perception, nos quotidiens vont être à terme adossés à l'entreprise Google et à ses capacités à gérer les données et à les distribuer. Et cela au prisme d'une seule compagnie monopolistique. Cela signale et témoigne d'un infléchissement algorithmique des existences, c'est-à-dire par le magma imperceptible des données, par le fait que nous allons vers elles et qu'elles viennent vers nous, c'est ça l'intelligence de la technique, c'est-à-dire la capacité des systèmes à analyser les données et à les distribuer de façon personnalisée à l'intérieur de situations collectives ou individuelles. Par exemple, je passe à côté d'un magasin de chaussures, au vu de mes profils, on me signale l'opportunité, la pertinence, dit-on en marketing, eh bien de me rapprocher de ce magasin au vu de mes antécédents, parce qu'il y a une promotion qui devrait particulièrement m'intéresser. C'est cela l'infléchissement algorithmique. Alors c'est insensible, ça se manifeste par des alertes, par des suggestions écrites, mais c'est appelé, c'est déjà le cas, et de plus en plus, et les Google Glass témoigneront de cela, à infléchir de plus en plus nos comportements individuels et collectifs, et de façon de plus en plus prégnante.
Finalement, est-ce qu'on va être encore libre de faire notre propre choix ?
C'est évidemment la question du libre-arbitre qui se pose, la question de la distance qu'on peut opposer à ces systèmes dont on pourra dire qu'évidemment ils nous rendent des services formidables. Je dis cela sur un ton légèrement ironique, je ne sais pas si ça s'entend, mais évidemment qu'il y a un retour de la qualité de ces services. C'est à la fois une connaissance continue de nos comportements, parce que ces services seront indissociables de la connaissance des comportements. Donc, où l'on voit que toutes les révélations de Snowden, eh bien, d'une certaine façon, c'est un peu l'âge de pierre de la connaissance des personnes. Nous allons par les objets connectés, par la numérisation intégrale du monde, par les Google Glass, vers une connaissance ininterrompue des comportements et de plus en plus approfondie, c'est-à-dire tel geste, telle action, dans tel lieu, avec tel réseau relationnel. Et cela, évidemment, fait que nous sommes enveloppés de données, que ça infléchit nos actions. Et comment opérer la distance, comment décider librement de nos choix à l'intérieur de cet environnement, c'est un peu le principe humaniste basé sur le libre choix, la libre responsabilité d'action et de décision qui actuellement est en train de s'effriter au profit de ce que j'ai dit, c'est-à-dire d'une pression, d'un infléchissement des décisions via des systèmes qui ne cessent de nous suggérer et d'orienter nos décisions. Ce que nous découvrons aujourd'hui, notamment par les objets connectés et notamment par ce dispositif que nous évoquons actuellement, les Google Glass, mais aussi l'importance des données et l'interprétation par des systèmes extrêmement élaborés des situations, ce que nous découvrons, c'est que la situation actuellement du numérique, en tous les cas c'est ce que je dis dans mon dernier livre et ce que je dis dans mon essai en cours, c'est que le numérique aujourd'hui, et il me semble que ça va être de plus en plus le cas dans les années à venir, renoue massivement avec son ambition initiale de rationalisation des sociétés.
Dans votre livre, vous parlez de l'arrivée du smartphone comme marquant la fin de la révolution numérique. Alors maintenant, on est entré dans quelle ère ?
Et à mon sens, nous sommes entrés dans l'ère de ce que je nomme l'intelligence, de la technique. C'est-à-dire, plus seulement, même si c'est encore le cas, plus seulement celle qui nous permet d'avoir accès à des, par la numérisation encore, d'avoir accès à quantité de corpus textuels, iconiques, sonores, ou de pouvoir communiquer de façon instantanée, extrêmement aisée entre individus. C'est ce moment, par la diffusion ininterrompue de données, la production exponentielle de données, ce qu'on nomme les big data, ce moment qui veut que les systèmes sont capables d'interpréter l'état de situation, de nous suggérer, de nous conseiller quantité de choses et de prendre des décisions à notre place. Par exemple, le trading algorithmique, c'est exactement cette architecture-là. C'est-à-dire, vous savez, le trading à haute fréquence, qui aujourd'hui représente la part majoritaire des transactions boursières dans le monde. Eh bien, ils sont gérés, manipulés par des robots numériques imperceptibles qui collectent des myriades d'informations à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités cognitive, par exemple le cours à la baisse ou à la hausse de certains titres, et qui décident d'eux-mêmes, il faut bien entendre ce que je dis là, qui décident d'eux-mêmes de l'achat ou de la vente de titres. Alors vous voyez ce moment de la technique qui veut qu'il y ait une sorte d'intelligence en partie supérieure, en partie, pas sur tous les champs, mais qui nous supplante et à qui nous avons délégué un pouvoir décisionnel. C'est très très surprenant et c'est exactement le cas pour la Google Car, hein, qui est un prototype, mais qui à terme va conduire un passager ou plusieurs passagers. La place du conducteur va disparaître au profit de... Voilà, on pourra faire du yoga dans la voiture ou lire sa tablette, hein, et qui va pouvoir, par des capteurs, gérer d'elle-même l'intégralité d'un parcours sans que l'humain ait à intervenir continue. Hein, c'est très troublant. C'est ce moment-là que nous vivons dans l'histoire de la technique, c'est-à-dire ce moment où la technique prend la main d'une certaine manière et décide d'action et d'initiative à notre place.
Alors peut-être pour conclure, quels moyens on a aujourd'hui pour sensibiliser la population ?
Repolitiser la question de la technique, c'est-à-dire la rapatrier dans le champ politique, juridique, social. Hein. Dans mon dernier livre et dans le prochain, je vais encore plus développer ce que j'appelle la classe agissante, hautement agissante des ingénieurs. Hein. De plus en plus, nos vies sont orientées par des inventions d'ingénieurs. Hein. Par exemple, Google Lab, hein, tout ce que nous avons évoqué relativement à Google, ce sont des inventions d'ingénieurs. Alors évidemment, soutenues par les pouvoirs économiques, hein, là encore, ils font leur travail, mais il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Hein, et le propre du politique, c'est d'être lui-même structuré en contre-pouvoir. Hein, et il faut en appeler à une multiplicité de contre-pouvoirs, de pouvoirs politiques, examiner les situations, à les valider autant que possible, des contre-pouvoirs citoyens. Le numérique ne vise pas seulement à rationaliser les existences et à offrir des services à des fins commerciales. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent être développés par les individus, par les citoyens. Donc, il faut en appeler au pouvoir des multitudes et au pouvoir du politique à intervenir autant que possible, librement, par la délibération, sur le cours des choses.
C'était donc le philosophe français Éric Sadin, auteur d'un ouvrage publié l'année dernière et qui s'intitule « L'humanité augmentée », publié aux éditions L'Échappée. Éric Sadin était interrogé par Quentin Bollen.